proposé une nouvelle émission sur ce créneau de rap, comme j'avais commencé à faire quelques émissions avec du rap féminin ou du rap tout court. Et du coup, bah, je bascule ce créneau sur cette émission sous le nom de Le Hip-Hop, je vais y arriver, Le Hip-Hop, c'est ma pote. Voilà, ben, écoutez, merci en tout cas à Baptiste, un grand merci pour ta participation ces derniers mois. Et Fix, bah, de toute façon, on reste en contact et je te souhaite plein de bonnes choses avec toute ton écriture et tout ton art, littéraire. Enfin voilà, bien, bonne continuation.
Merci beaucoup et longue vie à Le Hip-Hop, c'est ma pop.
C'est ma pote.
Belle aventure à toi.
Yes. De toute façon, on se voit en off et puis j'espère que ça vous plaira. Bah, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Hein. Vous savez où écrire, hein, radiocanu.org. Allez, bisous. Et puis, on vous laisse avec Sampa the Great, I Am Me. Et puis après, je crois que c'est le canu info. Allez, bisous, ciao.
Again, looking at the mirror, making sure so the same. Has it been a year, making sure I understand that I'm looking here and the wizard where I am. Breathe, cheers to the lunacations. Cheers to the time they turn to confessions. When you write your fears and hopes on the paper, music is the way I acknowledge the maker. Fortunately, it's my art. What you listen to is my heart. I probably lose heart cause I shared so much. I probably lose friends cause I care about my people more than cashing out stocks. Peace to the ones on my side, there's my eagles. Peace to the ones bridging gaps of the people. No, my strength don't come from the evil. I seen shines from my heart, cause I am me. From the day I started to the day I departed, all that I want to be. I am me. From the day I started to the day I departed, all that I want to be. I am me. I ain't going nowhere, I ain't going nowhere. It's all that I want to be. I am me. I ain't going nowhere, I ain't going nowhere. It's in a pot of gold, with it cause of heart and soul, with it in the end for the lessons I know, with it for the strength that I see I hold, with it in the eye, I see deeper than the eye, glitter in gold, not I, wondering why, now I really understand why, music is still my life, yes it's the greatest, now I sing high on my greatness, all my kids sing my praises, yes it's amazing, negativity is fading, positive anticipation, feeling like,
my joy comes in the morning. Peace to the ones who I made it. Peace to the love never fading. Peace to the peace to the art. Love for the love and the vision. Strength and the humiliation. You ain't never gonna take it from me. I ain't never gonna take it from me. You ain't never gonna take it from me. I ain't never gonna. I ain't going nowhere. I ain't going nowhere. It's all that I want to be. I am me.
Oh. Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Vous écoutez le Canu Info du lundi sous Radio Canu 102.2 et on commence tout de suite avec les titres.
À l'international, on aura un premier sujet sur la Birmanie où a eu lieu un samedi très meurtrier, puis on partira vers Bristol où la contestation devient émeutière contre une loi sécurité globale à l'anglaise.
Au national, on parlera d'un procès contre des militants handicapés pour enchaîner avec la loi climat. Et enfin, on ira à la place de la République occupée à Paris.
Et au local, on fera un petit retour sonore du week-end de mobilisation qu'il y a eu pour le logement, avec notamment un récit de l'expulsion de vendredi, des infos aussi des différents événements qui ont lieu ce week-end.
Et on commence tout de suite avec les brèves. Deux petites brèves pour cette émission. La première, qui est plutôt surprenante, c'est qu'un policier a été mis en examen pour avoir éborgné une femme de 20 ans avec un LBD lors d'une manifestation Gilets jaunes en décembre 2018, à la grande surprise de la victime qui n'y croyait plus du tout. Rappelons quand même que le policier est encore loin d'être condamné. Et la nouvelle moins surprenante, c'est que la Cour de cassation a confirmé le non-lieu prononcé en faveur du gendarme qui a tué Rémi Fraise en 2014 avec une grenade à Sivens. Pour rappel, Rémi est mort de cette grenade touchée dans le dos et ce non-lieu a été prononcé alors même que les témoignages des gendarmes présents se contredisent, ce qui mériterait quand même qu'on s'y intéresse un peu plus. Donc toujours pas de procès, 7 ans après les faits. Et pour la famille, il ne reste plus que la Cour européenne des droits de l'homme.
Et on passe tout de suite.
Ah oui, tout à fait. International.
Et on part tout de suite en Birmanie où le dernier samedi de manifestation a été meurtrier.
Oui, plus de 100 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie samedi 27 mars dernier lors des manifestations pro-démocratie en Birmanie. C'est là un triste cap franchi dans la violence de la répression. En effet, il s'agit du plus lourd bilan depuis le coup d'État perpétré, on le rappelle, le 1er février par la junte militaire. Coup d'État qui a mis fin au processus de démocratisation désiré par une partie de la population et dont Aung San Suu Kyi était devenu l'un des symboles. Un symbole qui, rappelons-le au passage, a quand même perdu de son attrait depuis que Aung San Suu Kyi a essayé de collaborer avec les généraux qui ont organisé le putsch et qu'elle a silencieusement cautionné le génocide des Rohingyas. Depuis le coup d'État, donc, l'Assistance Association for Political Prisoners estime à 423 personnes le nombre de victimes tuées par les militaires. Et samedi dernier, Les militaires ont tiré à balles réelles sur les manifestants et les manifestantes qui défilaient contre la journée des forces armées. C'est une journée de démonstration de force pendant laquelle est prévu un énorme défilé militaire organisé devant le général Min Aung Hlaing, chef de la Tatmada, c'est-à-dire de l'armée birmane, général qui est désormais aussi le chef de la junte au pouvoir. Après des semaines de contestations dans la rue, des dizaines de manifestations émeutières, une grève générale qui s'amplifie de jour en jour, cette triste journée de massacre montre que le pouvoir militaire est prêt à tout pour rester en place. Et la répression s'est prolongée d'ailleurs jusqu'au dimanche 28 mars. Alors que de nouvelles manifestations avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays, la junte n'a pas hésité à nouveau à ouvrir le feu à l'occasion de rassemblements autour des morts de la veille. La stratégie de la terreur bat donc son plein en Birmanie. Il s'agit pour les généraux d'écraser toute contestation par la violence extrême afin de dissuader les manifestants et les manifestantes de poursuivre leur résistance. C'est d'ailleurs dans ce contexte répressif que s'est également produit un autre assassinat, celui de Kin Myo Shit, une petite fille de 7 ans, près de Mandalay, deuxième ville du pays. Alors que le chaos régnait dans cette ville mardi dernier, avec des barricades enflammées, des perquisitions, des tirs de mitrailleuses, 3 personnes ont été abattues, dont Kin Myo Shit, tué donc par balle dans le ventre, dans les bras de son père. Et d'ailleurs, si plusieurs pays ont officiellement condamné ces violences et la violence accrue de la répression, la junte militaire conserve des soutiens solides. La Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande ont répondu présents au défilé militaire et soutiennent donc la junte en place. Toujours ici, force et soutien au peuple birman en lutte.
Et on va rester à l'international, mais cette fois de l'autre côté de la Manche, on va parler de la contestation à Bristol.
Alors à Bristol, c'est la jeunesse qui manifeste depuis une semaine en hommage à Sarah Everard, tuée par la police dans un contexte où le gouvernement tente de faire passer l'équivalent britannique de notre belle loi sécurité globale. Et oui, il n'y a pas qu'en France que la police tue et que le gouvernement la protège. En Grande-Bretagne aussi, une loi renforçant les pouvoirs de la police est sur le point d'être votée. Selon ce projet de loi, les manifestants participant à des rassemblements jugés trop bruyants ou trop nuisibles pourraient être condamnés à des amendes ou des peines de prison ferme. Comme un air de déjà-vu, non ? Au rythme donc du mot d'ordre « Kill the Bill », tuer la loi, la manifestation de dimanche 21 mars a tourné à l'émeute à Bristol. Un camion de flics a été incendié et des feux d'artifice ont été tirés, tandis que des centaines de personnes ont convergé vers le comico de Bridewell pour exiger la libération des interpellés. Cette émeute, elle fait suite à des semaines de contestations contre les violences sexistes et sexuelles qui ont pris beaucoup d'ampleur suite à l'assassinat de Sarah Everard, une jeune femme de 33 ans, kidnappée et tuée par un policier rattaché à la sécurité du palais de Westminster. La veillée d'hommage qui avait été organisée d'ailleurs pour Sarah a été violemment réprimée sous prétexte de confinement. Et depuis, les revendications se sont élargies. La lutte contre les féminicides s'est étendue à la contestation de ce projet de loi qui vise, on l'a dit, à renforcer les pouvoirs d'intervention policière lors des mobilisations. C'est que les violences sexistes et les violences policières sont intimement liées. La violence répressive de la police s'affiche comme la manifestation la plus visible du système d'autolégitimation du patriarcat. En effet, le pouvoir social et institutionnel de la police reflète de manière symptomatique le pouvoir de contrôle et de punition accordé aux hommes de manière générale. La violence patriarcale des policiers est révélée au grand jour par la fonction répressive qu'ils exercent, mais que le statut de fonctionnaire ou d'agent public légitime. Si la matraque cristallise la violence patriarcale, l'uniforme, lui, protège l'agresseur. D'ailleurs, il suffit de se documenter un petit peu sur le site de Désarmons-les, par exemple, pour se rendre compte que la culture du viol, les agressions sexuelles dans les lieux d'enfermement et les injonctions virilistes saturent le climat ambiant de l'institution policière. En Angleterre, comme partout ailleurs, à bas l'état policier et à bas les violences sexistes et sexuelles.
Et en parlant d'état policier, on va écouter un morceau du groupe The Ruts, qui est un groupe punk des années 70 en Angleterre, qui avait écrit une chanson intitulée Jawar, suite à des affrontements entre des jeunes noirs et des policiers lors d'une manif contre l'extrême droite.
The air was thick with the smell of a brush. recession, the military join in angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young black boiling hearts with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The winds were blowing and stirring up reaction. The storm broke out, a militant action. Hot heads came in uniform. Thunder and lightning in a violent form.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening.
No troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness. Said the blood on the streets that day. Yeah.
Fighting, fighting,
a Jawa.
Fighting, fighting.
A Jawa.
Fighting, fighting.
Too close, fighting.
A Jawa. A Jawa.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez le Canu Info du lundi 29 mars. Et on vient d'écouter Jawar du groupe The Ruts. Et on passe tout de suite...
On passe tout de suite avec Purée, il y a des jingles maintenant.
Maintenant il marche, oui.
Bon, j'ai l'impression que non.
Les micros sont pas branchés là.
Si.
Et on passe au National.
Au National.
Et au National, on va vous parler de la justice qui a humilié des militantes et des militants handicapés.
Oui, alors petit retour sur les faits d'abord. En octobre 2018, une dizaine de personnes donc handicapées, entre guillemets, envahissent les voies ferrées de la gare à Toulouse et paralysent le trafic pendant 1h30. Leurs revendications portaient sur l'accessibilité de la gare et ils exigeaient des travaux, à savoir pour le cas de cette gare, la remise aux normes d'un ascenseur à la fois trop petit et trop souvent en panne. Ils partent de leur plein gré tout en annonçant que ce type d'action sera amené à se reproduire tant que les personnes en situation de handicap ne seront pas prises en compte. Et ça ne manque pas, le 14 décembre 2018, c'est une piste de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui est envahie. Cette fois-ci, les militantes et militants finissent à la gendarmerie et cette action avait pour but de visibiliser le fait que la loi Elan, qu'on connaît aussi pour d'autres raisons, a abaissé le quota de logements accessibles aux personnes handicapées de 10%. Et il et elle ont bloqué le trafic pendant une heure. C'est le collectif Handi Social qui a l'initiative de ces deux actions et de bien d'autres aussi, comme par exemple des péages gratuits à l'époque des Gilets jaunes. Mais c'est pour ces deux dernières actions que 12 personnes sont passées devant le tribunal correctionnel de Toulouse. L'idée du procès en soi avait quelque chose de ridicule puisque les militantes sont jugées pour avoir impacté plus de 1800 passagers et leur avoir causé des désagréments. Alors que justement, les militants revendiquent pour eux le droit à se déplacer sans désagrément, comme par exemple à ne pas avoir à attendre le train suivant parce qu'il n'y a pas assez de place pour les fauteuils roulants dans celui qu'il ou elle devait prendre. Mais le procès est allé bien plus loin que ça, et son déroulé a prouvé qu'il existe bien une discrimination envers les personnes handicapées. D'abord, le tribunal, comme l'a fait remarquer leur avocate, n'est pas aux normes d'accessibilité. Il est donc lui-même hors la loi, et les prévenus ont mis une heure à accéder à leur salle d'audience, restant bloqués en bas des marches du tribunal. Ensuite, il n'y a pas eu d'interprète pour une personne qui ne pouvait pas s'exprimer oralement. Pas de traduction des convocations en braille pour une personne malvoyante. Lors de leur arrestation en 2018, tout le monde avait été transporté dans une camionnette non adaptée dans laquelle les fauteuils roulaient librement dans les virages. Ensuite, l'audience a duré jusqu'à tard, 22 heures. Et bien que chaque prévenu avait mentionné dans leur dossier qu'ils avaient des besoins spécifiques, le plus fréquent étant celui de devoir aller souvent aux toilettes, ceux-ci n'ont pas été pris en compte. Résultat, une personne a fini par uriner sur lui-même et l'a déclaré pendant l'audience. Dans le lot des militants se trouve Odile Morin, qui avait bloqué un canon à eau avec son fauteuil lors d'une manifestation de Gilets jaunes et aujourd'hui élue d'opposition à la mairie de Toulouse. Mais en ce qui concerne cette farce judiciaire, lors de laquelle les militants et militantes risquent quand même 5 ans de prison et 18 000 euros d'amende, ainsi que 44 000 euros de dommages et intérêts, le délibéré est reporté au 4 mai.
Parlons maintenant de la loi climat du tout-cui-cui-cui pour l'industrie minière.
Et oui, 17 ans après la fermeture de la dernière mine de charbon en métropole, va-t-on rouvrir des mines d'or, d'étain, de tungstène ou de lithium? C'est la question que vous posez bien évidemment toutes et tous aujourd'hui. Et c'est la question aussi qui est au cœur de la réforme du code minier qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi intitulé « Climat et résilience, sous-entendu du capitalisme ». La promesse qui est affichée par le gouvernement, c'est de soumettre une industrie très polluante aux exigences écologiques. En réalité, le gouvernement entend surtout faire de la réouverture de ces mines le fer de lance d'une politique de reconquête industrielle. Alors le code minier, qu'est-ce que c'est? C'est issu d'une loi datant de Napoléon Ier et il fixe les conditions d'octroi et de prolongation des permis d'exploration et d'exploitation des mines, des carrières et des hydrocarbures. Il détermine aussi la responsabilité des acteurs économiques et politiques face aux conséquences environnementales de ces activités minières. Alors que les entreprises bénéficient dans leur grande majorité d'une large impunité en la matière. La France compte des milliers d'anciens sites miniers, comme l'ancienne mine d'or de Salsigne dans l'Aude, qui a été fermée en 2004 et qui est devenue un symbole du désastre minier. Jadis première mine d'Europe, elle a produit des montagnes de déchets toxiques, arsenic, cyanure, métaux lourds, qui continuent de contaminer la vallée de l'Orbiel et la vie de ses habitantes et habitants. À des milliers de kilomètres de la métropole, il y a un département où on n'a jamais cessé de creuser, c'est la Guyane. Et début décembre, des chefs coutumiers des 6 peuples autochtones du département réunis au village autochtone Kouano ont réaffirmé leur opposition aux mines industrielles, qui menacent plus de 400 000 hectares de forêt, comme le rappelle le collectif Hors de Question, qui est en lutte contre les méga-projets de mines en Guyane. Et en tout cas, pour justifier la réforme du code minier, le gouvernement vante les progrès d'une industrie engagée, je cite, « dans un modèle extractif responsable et exemplaire ». Des arguments qui sont d'ailleurs repris par les principaux syndicats, alors même que les perspectives de création d'emplois restent extrêmement faibles. La CFDT affirme ainsi que la reprise de l'activité minière est une nécessité. On pourrait faire les choses moins mal qu'ailleurs, sous-entendu avec un peu moins d'exploitation des travailleurs et des travailleuses et un peu moins de destruction de la nature. La CGT renchérit, la réouverture d'exploitations minières redonnerait des perspectives d'avenir aux territoires ruraux et montagneux. Sauf que cette loi reste très floue sur la question notamment des garanties financières qui sont censées contraindre les exploitants à réparer les dégâts causés par leurs activités et pourrait même faciliter la relance des ouvertures de mines. L'article 21, en effet, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur le code minier et donc à offrir de véritables chèques en blanc aux mines artisanales et industrielles en les exonérant d'évaluation environnementale. Bref, le gouvernement continue de faire mine d'encadrer l'ouverture des mines, tout en assurant la résilience du système capitaliste.
Mine de rien, c'est un sacré sujet.
Et pour finir au national, on va à Paris, à la place de la République occupée.
À l'occasion de la nuit de la solidarité ce 25 mars, un camp de migrants et de migrantes s'est installé sur la place de la République à l'initiative du collectif Réquisition. Cette action vise à réclamer des logements immédiats, stables, pérennes, décents pour tous et toutes. Quatre mois après l'évacuation violente du campement qui avait déjà été installé en pleine trêve hivernale, le collectif Réquisition, qui regroupe plusieurs assos, dont le DAL, le droit au logement, Utopia 56 et Solidarité Migrants Wilson, ce collectif a reconduit l'opération au même endroit. Petit rappel et petite mise en contexte. Selon la fondation Abbé Pierre, en 2020, il y aurait au moins 300 000 hommes, femmes, enfants privés de domicile en France. Et la crise sanitaire n'a fait que renforcer les situations de précarité liées au logement et au mal-logement. La crise sanitaire a accentué les difficultés d'accès au logement ainsi que les risques d'expulsion pour un nombre croissant de personnes et de familles. D'ailleurs, à peine créées, les 20 000 places d'hébergement ouvertes lors du premier confinement étaient déjà saturées et les dispositifs sont si engorgés qu'il est quasiment impossible d'accéder à un hébergement d'urgence, quand on appelle le 115 par exemple. Pour se représenter la situation, voici un autre chiffre. En 2020, ce sont plus de 5 millions de personnes, soit 8% de la population, qui vivaient dans un logement suroccupé, ce qui a pour conséquence en ce moment une surexposition au virus. Face à ça, les réponses gouvernementales sont risibles et insatisfaisantes. 150 euros à la destination des familles modestes, une aide de 200 euros pour certains jeunes précaires de moins de 25 ans, versée à deux reprises en 2020, et c'est tout. Dans ce contexte, l'opération de visibilisation des invisibles qui a eu lieu place de la République permet quand même de montrer que rien n'a changé depuis la dernière action qu'ils avaient menée. Mais cette fois-ci, le succès de l'opération n'est pas nul puisque 500 places d'hébergement d'urgence ont été obtenues. Espérons que ceci n'est qu'un début et qu'une première victoire qui en annonce d'autres.
Et pour passer de l'occupation de places à la réquisition des logements vides, on va écouter le morceau « Les princes de la ville » du groupe 113. We'll be right back. voilà, vous aurez toutes et tous reconnu le morceau de rap Les Princes de la Ville du groupe 113. Et on passe tout de suite.
Local. Et on passe tout de suite à un retour sonore du local. Week-end des mobilisations
locales.
Voilà. Oh. Voilà, donc on va, comme on vous parlait de mal logement, comme ce week-end à Lyon se sont déroulés, à Lyon et Villeurbanne d'ailleurs, plusieurs rendez-vous de lutte contre le mal logement. Et ceci alors même que vendredi dernier, un squat a été expulsé illégalement, c'est-à-dire après les 48 premières heures d'occupation. Dans le petit reportage que vous allez écouter tout de suite, on va entendre parler de ça, mais aussi de l'illégalité que vous connaissez bien maintenant, on espère, et puis du comité de lutte des étudiants de Lyon.
Alors, sur ma banderole, je tiens avec deux autres personnes, il y a écrit « Longue vie à toutes les îles Égalité ». Du coup, c'est en référence à un lieu qui a été réquisitionné il y a 6 mois, à peu près, un peu plus, qui s'appelle l'île Égalité, qui est 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, où on organise des activités pour recréer un espace solidaire et de partage dans notre quartier. Donc des activités qui s'adressent aux plus précaires et aux gens du quartier en général. Donc ça va des cours de boxe jusqu'à des permanences de lavomatique gratuits, en passant par les distributions alimentaires, le tout gratuit et organisé par des habitants et habitantes du quartier. Nous sommes expulsables depuis 2 jours parce que la justice a décidé de passer outre la prolongation de la trêve hivernale. Donc on est expulsables sans délai, immédiatement. Donc effectivement, le lieu est en danger. Et on organise un super méga carnaval le 30, mercredi 31, mercredi 31, à 16h, devant le TNP, qui est aussi occupé en ce moment, le TNP de Villeurbanne. Donc il va y avoir un cortège depuis le TNP jusqu'à l'île Égalité pour protester contre cette expulsion complètement arbitraire, quoi.
Voilà. Populaire contre la misère et pour tous les précaires à réquisition.
Oui, alors hier, il y a un bâtiment vide qui était vide depuis des années, qui a été réquisitionné pour loger des personnes sans abri rue de Créqui, près de la place Guichard. Et cette initiative solidaire, elle a été violemment réprimée. Donc les forces de l'ordre ont expulsé les occupants et occupantes. Ils ont violemment réprimé le rassemblement de soutien spontané qui s'était créé à ce moment-là. Par des coups, des gaz, des coups de matraque. Il y a plusieurs personnes qui ont été blessées à la tête. Et on a 4 de nos amis qui ont été interpellés et placés en garde à vue, dont certains dont on attend toujours des nouvelles. Nous condamnons fermement cette répression et on donne tout notre soutien à ces personnes qui ont été arrêtées. Et la lutte continue pour un logement digne pour toutes et tous. Il y a une cagnotte de soutien aussi qui va tourner prochainement sur les réseaux, sur la CAL, donc la page Facebook de la CAL, la coordination d'action pour le logement Lyon et environ. Voilà.
Par la boussole, je revendique mon linceul pour revenir à l'essentiel en mourant. Je fête mon adieu, toutes les renaissances me consolent. Prenez pas pour une folle. Ne prenez pas pour une folle. Je suis comme le phénix, suffit d'une étincelle pour que mes ailes reprennent forme. Ne prenez pas pour une folle. Je suis comme le phénix, ne prenez pas pour une folle. Je suis comme le phénix, ne prenez pas pour une folle. Je suis comme le phénix, suffit d'une étincelle pour que mes ailes reprennent forme.
Ok, donc je m'appelle Craig, j'ai 22 ans, je suis étudiant du coup à la fac Lyon de Quai, je suis dans du coup l'organisation syndicale, le comité de lutte des quais. Ça fait 2 ans qu'on milite sur différents sujets, notamment tout ce qui touche en fait au campus. Donc l'année dernière j'étais à Bron, du coup là c'était tout au niveau de la privatisation des études, la privatisation du campus. À Bron il y a une très grande logique de... Enfin, ce campus, il tombe en ruine, donc de tout ce qui est rénovation du campus. On a du coup aussi suivi des dossiers de logement étudiants, des dossiers de bourse. On a fait énormément de choses sur le CROUS, justement. Voilà, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a eu des plus ou moins grandes victoires.
Ouais.
Et on a mené 2-3 grosses actions, comme l'envahissement du CROUS en décembre dernier, où on était 80 avec des syndicats de travailleurs comme... les cheminots, la CGT des cheminots, etc. Et on avait, enfin où la direction avait dû avoir recours à la police pour nous faire sortir. Voilà.
Ok. Est-ce que tu pourrais me lister vos revendications?
Alors il y en a plusieurs. Les principales, c'est du coup un logement pour tous les étudiants en résidence CROUS. Des bourses ouvertes pour tous les étudiants, parce qu'aujourd'hui les étudiants étrangers n'ont pas accès aux bourses. Baisse des frais d'inscription. L'augmentation en nombre et en montant des bourses. La fin de la privatisation en fait, de l'université pour un service public des études supérieures et de la formation. On a encore des dossiers à défendre. La politique du CROUS, elle est encore bien trop discriminatoire et raciste sur ces questions-là. Le fait que des étudiants, de par le fait qu'ils soient étrangers, n'ont pas le droit à un logement parce qu'ils sont en M1 et M2, quand on vend la France à l'étranger avec des plateformes comme Campus France, comme quoi ils auraient une chance de faire ce qu'ils veulent, une chance de se loger, etc., et qu'au final ils n'ont rien, c'est juste intolérable. Et puis même, on est censé parler du service public, et le CROUS, c'est pas le service public, mais depuis sa création, c'est complètement privatisé. Et puis c'est ça qui est le plus grave, c'est qu'en fait, on est sur... cette logique du rendement du système capitaliste, et du coup on a complètement en fait des millions de bénéfices qui sont faits chaque année par le CROUS, et seulement 5% des étudiants qui sont logés, des résidences qui sont construites mais qui sont extrêmement chères, avec une moyenne de 400 euros le 20 mètres carrés, et c'est pas normal, c'est juste pas normal, et parce que du coup ça oblige énormément d'étudiants à se salarier parce que les bourses sont pas non plus suffisantes. Aujourd'hui il y a 50% des étudiants qui travaillent et c'est pas anodin. Et du coup, on lutte sur tout ça et on espère améliorer les choses.
Et si on veut se tenir informé de ce que vous faites ou vous contacter, il y a quel moyen?
Il y a que des pages Facebook, du coup Comité de lutte Lyon de Quai, Comité de lutte Lyon de Bron et Comité de lutte La Doie.
Voilà, donc pour le reportage, et puis pour compléter les informations que la copine donne sur l'expulsion illégale de vendredi, les policiers ont eu recours à des méthodes douteuses pour obtenir l'identité des occupants, leur disant par exemple qu'il suffisait qu'ils en aient une pour les laisser rester. Mensonge honteux qu'ils ont avoué dès l'identité obtenue. Et puis Sandrine Runel, élue à la mairie du 8e et adjointe à la métropole, à la solidarité et l'inclusion sociale, a menacé de remettre un arrêté de péril sur le bâtiment en question, alors que cet arrêté a été levé en 2019 suite à des travaux, et ce uniquement pour permettre une expulsion sans délai des occupants.
Et puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette rubrique, on passe tout de suite à la citation de la semaine.
Qui a dit « Napoléon s'intéressa à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France ». Certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. » Il s'agit bien évidemment de la citation de l'historien Gérald Darmanin, qui est aussi ministre de l'Intérieur à ses heures perdues, et qui est tiré de son dernier livre, Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité, que nous avons bien évidemment lu pour vous. Donc pour le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, les Juifs étaient donc des corps étrangers qui posaient problème du fait de leur rapport à l'argent. Les discriminations, les violences et les pogroms dont ils et elles étaient l'objet sont considérés par le ministre de l'Intérieur comme de simples troubles et réclamations dont seuls les Juifs sont responsables, puisque ce sont eux qui les faisaient naître. L'ancien compagnon de route de l'Action française poursuit en citant une lettre de Napoléon à son ministre de l'Intérieur de 1806, une lettre qui exclut les Juifs des Français et les accuse même de se livrer au mal au détriment de ces derniers, au point qu'il faille trouver un remède. Les Juifs sont donc implicitement comparés à une maladie qui menace le corps national. Morale de l'histoire pour Gérald Darmanin, une lutte pour l'intégration avant l'heure. L'antisémitisme relié à l'islamophobie n'est pas une chose nouvelle chez Gérald Darmanin, puisque le ministre de l'Intérieur avait en effet pris comme exemple d'un communautarisme à la fois les rayons halal et kasher des hypermarchés. Et si on n'est plus étonné de ce genre de propos antisémites et racistes et islamophobes par Gérald Darmanin, on est plus troublé par le silence des médias, des partis politiques, de la LICRA, de SOS Racisme, mais également du Printemps Républicain, bref, de toutes celles et ceux qui ont défendu l'idée d'un nouvel antisémitisme qui serait essentiellement et avant tout l'apanage des seuls musulmanes et musulmans, ou considérés comme tels. L'antisémitisme est-il donc toléré quand il est le fait d'un membre du gouvernement et quand il permet de justifier l'islamophobie d'État d'aujourd'hui? La question est posée.
Et pour finir cette émission, avant de passer à l'agenda, on écoute un petit reportage sonore qui a eu lieu à l'Illégalité, à Cusset, dans le cadre donc de ce week-end des mobilisations pour un logement digne pour tous et toutes. C'est un reportage sonore à propos des galères de logement rencontrées dans le quartier de Cusset.
J'ai 24 ans, j'habite à Cusset, à l'île d'Égalité.
Moi, c'est Souma Sédoua, j'habite à Cusset ici.
Mon nom, c'est Mohamed Ali, j'habite à Cusset, rue de l'Égalité.
Safia, j'ai 35 ans et je suis maman de deux enfants. J'habite dans un F2, donc avec mes deux enfants.
Je m'appelle Carla, j'ai 28 ans. Je suis en France depuis 1 an 8 mois avec ma mère. Je suis demandeur d'asile.
Moi, c'est Abdallah. J'habite dans une résidence à Doma, à Villeurbanne.
Nous, c'est le collectif Solidarité Cusset. Pour ce week-end de mobilisation sur la question du logement, on a eu envie de donner la parole à des habitants et habitantes du quartier qui ont connu ou connaissent des galères de logement. Cusset, le quartier dans lequel nous sommes, a beaucoup changé ces dernières décennies. Il est passé en l'espace d'un siècle du bourg rural à la banlieue populeuse, de la banlieue à la ville industrielle et enfin de la ville industrielle à la ville désindustrialisée. Les problématiques liées au logement n'y sont pas récentes. Elles ont évolué au rythme des implantations d'usines, des vagues migratoires et des reconfigurations urbaines qui ont façonné la commune. Aujourd'hui, les galères de logement à Cusset et autour sont multiples. Explosion des prix des loyers, logements inadaptés, institutions et associations qui proposent des hébergements dans des conditions indignes et répression de squats. Tour d'horizon de la précarité du logement à Cusset et alentour.
Donc moi j'étais libéré de centre de rétention, j'avais pas de logement, j'avais rien du tout, mais avec l'aide des amis, des collectifs que je connaissais ça fait un moment maintenant, ben ils m'ont proposé de venir ici, de voir si ça me convient. Ben, dès que je suis arrivé ici, ben, j'ai plus bougé, j'aime bien, ça me plaît ici, et voilà.
J'habite à Cusset ici. C'est grâce à un ami que je suis venu ici. Avant, j'habite à Coulèze. Mais il m'a quitté à Coulèze, il m'a transféré à Dijon. Donc, je n'ai rien quoi faire maintenant.
Et moi, je suis venu avec ma femme, que j'étais dans la merde. Et j'étais pris trop du support ici.
Quand j'ai arrivé ici en France, et j'ai déposé mon dossier demandeur d'asile. J'avais une demande d'asile doublon. Et on attend que le temps nous fournisse l'hébergement, ou l'OFI, la préfecture nous fournisse l'hébergement. Le début, mes premiers 2 mois, j'ai payé une chambre chez quelqu'un. Et après, j'étais chez Missionnage de la Charité. Ce sont des personnes qui accueillent des gens pour un petit moment. Et après, j'ai eu le premier hébergement fourni par l'État. C'était un Prada qui c'est pour les personnes demandeurs d'asile doublon. Et après, ça fait depuis octobre que je suis à cette CADA. Quand on est demandeur d'asile, on bouge quand l'État décide.
Alors, j'habite à Villeurbanne, du côté de République. J'ai été avant ça à Cusset, où j'aurais bien aimé revenir, mais disons que c'est très compliqué au niveau du logement, justement. J'ai mes enfants qui sont tous les deux scolarisés à Cusset. Parce qu'ils sont restés dans leurs établissements suite à la séparation. J'ai quand même eu beaucoup de chance d'être entourée et d'avoir des personnes qui m'ont hébergée quand je suis partie de chez mon ex et que j'ai dû dormir chez des amis, prendre le salon. Enfin voilà, c'était ça pendant plusieurs semaines. Et l'incertitude pendant quelques semaines de ne pas savoir où est-ce qu'on va dormir tous les soirs, enfin... Je l'ai assez mal vécu. Enfin voilà, c'est tout bête, hein, mais donc du coup j'avais des amis chez qui je dormais le soir et qui arrivaient qu'à 18h et moi je finissais le boulot à 15h30. Je ne savais pas quoi faire entre 15h30 et 18h. Et puis, on parlait d'insécurité dans la rue pour les femmes, de me mettre à lire un bouquin dans un parc, de me faire emmerder par plein de mecs, de se dire « bon, ben, je ne suis pas en sécurité ici, je n'ai pas le droit en fait, d'attendre dans la rue ». Je passais toutes mes soirées dans les bibliothèques, quoi. Pour me protéger de ça, quoi. Finalement, j'ai eu la chance qu'un couple d'amis cherchait un locataire pour leur appartement. Et donc, du coup, j'ai pu, sans prouver que je touchais des 1000 et des 100. D'ailleurs, à l'époque, je touchais encore beaucoup moins. Je touchais 1300 et ils m'ont accepté comme locataire. Ça fait 2 ans que j'ai fait une demande de logement social. Donc je peux prétendre au logement social, mais c'est complètement bouché encore une fois. Donc aucune proposition en 2 ans.
Paradise down at the mall. Homeboy, everybody needs a home. Homeboy, everybody needs a home. Home, everybody really needs a home. Home, everybody.
Donc le lieu ici, c'est en 2 étages où il y a des habitants avec lesquels j'habite et je partage 4 chambres ici. Et en bas, c'est une grosse halle avec plusieurs endroits où on peut faire des activités et tout ça pour des enfants, pour distribuer de la bouffe. Il y a plein de trucs de sport, de boxe chaque mardi, il y a des cours de français, il y a plein de trucs qui se passent ici. Le collectif ici nous aide, ils nous donnent beaucoup de coups de main, ils sont toujours là pour nous. N'importe quel problème, ils sont toujours là. Et moi personnellement, j'ai toujours trouvé quelqu'un à mon côté qui me parle ou qui m'aide ou qui me donne une idée et tout ça.
On a une chambre qui a un balcon, que tu peux voir une école qui est des enfants, que tu peux sentir, tu peux voir ton enfance même dans cette école-là. Et bah bref, dedans il y a comment on dit, il y a une chambre avec des tables, un lit.
J'habite avec mon pote là, Silla. On est deux. Dans le sambre, là, on est deux. Depuis que je suis venu ici, le squat à Kissé, je suis tellement à l'aise. Ouais, quand je sors sur dehors, donc j'ai mis dans ma tête, il y a l'endroit de dormir pour ma part à Lyon ici. Donc, juste c'est ça que juste je vais dire ça.
J'habite dans un F2, donc avec mes 2 enfants, où j'aimerais bien avoir un F3, quoi. Avoir une chambre en plus. Mm-hmm. Et dans le parc privé, c'est pas possible, parce que du coup, il faut toucher absolument 3 fois le loyer, donc à moins d'être en couple et d'avoir un bon salaire chacun. C'est pas possible. Et dans le parc social, c'est pas mieux non plus, puisque au bout de 2 ans d'attente, on a toujours rien. Je dis, j'ai de la chance d'une certaine manière, parce que j'ai quand même un logement sur le toit, mais j'ai un toit sur la tête. Mais je pense à d'autres personnes qui galèrent encore plus et qui... Et voilà. Et je pense aussi que la tranche intermédiaire où on est ni pauvre ni riche, je crois que c'est la... ouais, c'est là où on sait pas trop bien quoi faire, quoi.
Dans une résidence à Doma, le principe c'est de fournir un habitat ou un logement à soit des travailleurs ou généralement dans ces résidences ce sont des retraités qui y vivent. Et puis il y a beaucoup de femmes avec enfants, de femmes célibataires avec enfants ou de personnes qui ont décroché un moment et puis qui n'ont pas de logement et puis qui se retrouvent là-bas. Généralement, c'est sur du court terme. C'est plus des phases, on va dire, transitoires, ou des phases de transition. Que depuis les années 60, c'était les travailleurs du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, qui travaillaient dans les usines, qui résidaient dans ces résidences-là, en fait. Donc il y a un problème et tout le temps des soucis avec les parties communes, l'entretien des parties communes, ou le chauffage. Donc, pas de chauffage, mais des problèmes, il y a des coupures d'eau aussi, parfois. Et puis aussi, il y a l'intrusion de l'administration dans les studios, donc c'est-à-dire que l'administration parfois s'introduisent dans le domicile des personnes, mais sans l'autorisation du locataire. Ce qui est sûr, c'est que cette administration-là, quelque part, a des comportements un peu... cherche quand même à contrôler un peu les habitants. Et puis, l'architecture et... l'architecture vraiment est faite pour empêcher d'autres personnes de s'introduire aussi dans les... de pouvoir plutôt dormir chez la... puis dormir à l'intérieur, quoi. Il n'y a pas de foyer aussi, il n'y a pas de cafétéria, il n'y a pas des lieux où les habitants peuvent se retrouver.
J'habite en petite chambre. Maintenant, nous sommes deux avec ma mère, mais chacune avec son petite chambre, qui a chacune un lit de célibataire. Un frigo et des placards pour vêtements et peut-être pour vaisselle aussi. Mais je ne sais pas dire combien de mètres carrés, mais c'est vraiment très petit. C'est difficile parce que une toilette pour plus de 4 ou 5 femmes, c'est un peu compliqué. Et en douche aussi pour 5 personnes, c'est un peu compliqué. C'est facile quand c'est un hébergement avec ta famille. Et tout le monde sait comment chacune fait sa hygiène. Mais quand tu ne connais pas la personne, quand tu ne sais pas quelles sont ses maladies, c'est difficile. Quand j'ai arrivé au primaire Prada, l'hébergement était très sale. Et ça m'a choquée. Je pleurais même devant l'assistante sociale qui m'avait présenté le chambre. Et là, j'avais dit, oui, je n'ai pas le choix. Et le même jour, j'ai dit, je ne peux pas dormir ici. J'ai arrivé dans l'après-midi. Et pendant la nuit, c'était 17h et 20h, je suis sortie pour aller chercher des trucs pour nettoyer. Parce que je savais que je ne pouvais pas dormir dans cette situation-là. Et j'ai arrivé au CADA, qui c'était pire, c'était très sale. Et en plus, il y avait des punaises de lit. il y a des punaises de lit. Et donc, on va parler comment des dignités si on dort sur un lit qui a des bestioles qui te font mal. On va parler comment des dignités quand tu dis « Oui, mais cette chambre, il est sale partout, le mur, il est complètement sale. » Et la personne dit « On ne peut faire rien parce qu'il est, il est ancien, le responsable dit ça, il ne veut pas peindre, tout ça. » Et j'ai eu une conversation avec une des assistantes sociales de cet endroit. Et j'ai dit, oui, même un prisonnier, une personne qui a commis un crime, si on parle des droits, si on parle des lois, l'État ne peut pas le mettre là. Non, je suis désolée si je fais mal au État français, mais les cadavres, les hébergements comme ça ne sont pas dignes pour personne.
On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, on roule et pousse barge. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu peux pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val de Marne, pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, ou plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais une chance, les circonstances font qu'à pénitence. Pareil que des amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, des TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations. Ouais, mec.
J'ai toujours dit, ça dépend de la définition de chacune, qu'est-ce qui signifie dignité. Et peut-être pour moi, dignité d'une une personne angolaise qui peut-être, j'ai eu déjà un hébergement très propre, une maison à moi, de tout à moi, c'est pas le même d'une personne qui, dans ce pays, il habitait dans la rue. Qui arrive ici en France, dans une petite chambre, il va dire Alléluia. Il va dire Dieu merci. Et des choses comme une toilette sale, une cuisine sale, il a déjà vu pire. Donc, si c'est de façon personnelle, pour moi, chambre Kada, chambre Prada ne sont pas dignes.
De rêve, c'est juste d'être dans un lieu calme, comme l'île d'Égalité, parce que c'est au quartier, on connaît des gens, on a connu des gens, même on joue du sport avec les gars du quartier, on est développé ici avec eux. C'est triste de le faire, mais oui, c'est vrai.
J'aurais aimé rester avec UCS et c'est là où j'ai créé tout mon réseau au niveau de l'aide entre mamans, entre parents. C'est aussi là qu'il y a pas mal d'activités que mes enfants font ou moi que je fais. Je suis investie dans le centre social, du coup c'est mon quartier quoi. J'ai vraiment créé un réseau pendant plus de 8 ans et puis se retrouver en dehors de ce monde-là, c'est embêtant. À bien retrouver ma petite vie de quartier de QC. Et j'aimerais bien avoir un T3, juste avoir une chambre pour mes enfants et même pas une pour moi, enfin juste une chambre pour chaque. Enfin, c'est peut-être trop optimiste, mais en tout cas avoir une chambre pour mes enfants et une pour moi.
Pour moi, indigne, c'est un appart ou un studio qui est en toilette toute seule, qui est en cuisine toute seule et qui est à la privacité. Un hébergement digne, je peux marcher même, je suis désolée de dire ça, toute nue dans ma maison. Je peux faire